sur VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, du nouveau dans la lutte contre le virus à Ebola, des chercheurs nord-américains ont développé un traitement expérimental appelé TKM Ebola.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest.
Le docteur Dambita Nkosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, nous apportera des précisions. L'agence spatiale américaine, la NASA, célèbre le 25e anniversaire du télescope spatial Hubble, alors que sa durée de vie en orbite autour de la Terre ne devait pas dépasser 15 ans. Journée mondiale contre le paludisme.
Il y a encore beaucoup trop de personnes qui n'ont pas accès à des diagnostics, à des traitements, et ainsi qu'à des moustiquaires imprégnés, et ça surtout en Afrique.
On entendra le docteur Pascal Ringwald du programme mondial de lutte anti-paludique. Et des chercheurs ont complètement décodé les codes génétiques ou génomes de deux mammouths laineux. Du nouveau dans la lutte contre le virus à Ebola, une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, associée à la compagnie canadienne Techmira Pharmaceuticals, vient de développer un traitement expérimental appelé TKM Ebola. Dans un essai effectué sur des singes, ce traitement s'est montré efficace contre le virus à Ebola, selon un article publié dans la revue Nature. Le docteur Dambita Nkosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, ici aux États-Unis, fait le point sur ce nouveau traitement.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, jusqu'à présent, un traitement similaire, celui de ZMapp par exemple, a été administré plutôt dans l'espèce Zaïre. Cela étant dit, ce traitement est un peu comme le ZMapp. C'est une compagnie américaine, Techmira, qui l'a mise au point. Il y a eu des études in vitro. Et l'efficacité a été mise au test dans 6 singes macaques.
Ce nouveau traitement vous apparaît-il très encourageant ?
Bon, c'est un traitement qui a des promesses, qui nous donne des promesses. Mais nous ne sommes qu'à l'aube. Hein. C'est une course de fond. Nous sommes à l'étape de l'expérimentation dans l'espèce animale. Il faudra maintenant, après avoir ajusté la dose, commencer l'expérimentation dans l'espèce humaine. Et si ces promesses-là sont maintenues, ce genre d'essai clinique ne pourra démarrer que peut-être en fin d'année, et sinon en début d'année prochaine dans l'espèce humaine.
Et en général, il faut combien de temps entre les débuts des essais sur l'espèce humaine et l'arrivée des médicaments et des traitements dans les pays concernés ?
Là, vous savez, hein, des fois, nous parlons de plusieurs années, hein, parce que on peut démarrer une expérience, mais on ne sait pas avec les aléas du terrain et le financement et beaucoup d'autres imprévus, et on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de ressources qui ont ciblé le Ebola. Et je trouve que ça, c'est un développement très, très encourageant.
Le docteur Dambita Nkosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, au micro de Claire Morin-Gibourg. Jusqu'à présent, aucun traitement contre le virus à Ebola n'a été homologué, mais plusieurs molécules, certaines expérimentales, et plusieurs vaccins ont été testés ou sont en cours d'évaluation. Ici Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme de VOA Afrique. Alors, pourquoi les moustiques vous préfèrent-ils aux autres? Car certaines personnes semblent souffrir davantage que d'autres de leurs piqûres. Eh bien, des scientifiques viennent de montrer que cette différence provient en fait de la génétique. L'espoir est qu'à terme, cette découverte permettra de développer de nouveaux médicaments. Anne Albertson.
Ce moustique cherche une victime et selon de nouveaux travaux, il s'attaquera de préférence à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. D'après le docteur James Logan de l'École de médecine tropicale et d'hygiène de Londres, la génétique est le facteur le plus déterminant et explique plus de 85% des cas de piqûres de moustiques.
Nous avons décidé d'étudier ce phénomène en utilisant des jumeaux et avons comparé l'attirance exercée par des jumeaux identiques et non identiques, affirme le Dr Logan.
L'équipe du médecin a collaboré avec l'Université de Floride, ici aux États-Unis, procédant à une série d'essais sur 18 jumeaux identiques et 19 non identiques. Les moustiques ont été placés dans des tubes et on leur a permis de choisir qui piquer de préférence. Ils devaient pour cela tourner à gauche ou à droite. Les jumeaux identiques attiraient les moustiques plus ou moins de la même façon. Par contre, les jumeaux non identiques n'étaient pas piqués avec la même régularité.
Cela suggère que le fait d'attirer ou non des moustiques est déterminé par la génétique. Nous savons que si vous ne plaisez pas aux moustiques, c'est que vous les repoussez naturellement. Il est donc probable que ce sont vos gènes qui contrôlent cette attraction, qui contrôlent les odeurs produites par votre corps, explique le docteur Logan.
À terme, ajoutent les chercheurs, ces travaux devraient permettre la mise au point de nouveaux traitements.
Une fois que nous avons identifié les gènes impliqués, nous serons peut-être capables, tout d'abord, d'évaluer une population pour identifier le risque de se faire piquer et donc de développer des maladies telles que le paludisme ou la dengue. Ensuite, nous pourrons peut-être mettre au point un médicament capable d'aider le corps à se protéger des moustiques, explique le docteur Logan.
Chaque année, quelques 500 000 personnes meurent du paludisme qui est transmis par les moustiques. Et ce, même si grâce notamment aux efforts de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès attribués à la maladie a chuté d'environ 47 % en 10 ans. Malgré ces progrès étonnants, les habitants de 97 pays restent vulnérables, signale le docteur Pedro Alonso, directeur du programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS à Genève.
Ici Washington, Camille Grosdidier, vous suivez Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. À l'occasion de la Journée mondiale du paludisme, le 25 avril de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé lance un appel pour qu'on s'attaque d'urgence aux importantes lacunes qui subsistent dans la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme. Car si le nombre de cas et les décès dus à cette maladie ont nettement diminué depuis 2000, plus d'un demi-million de vies sont encore perdues chaque année à la suite du paludisme, une maladie pourtant évitable. On écoute le docteur Pascal Riewald, chargé de la pharmacorésistance et de l'endiguement au programme mondial de lutte antipaludique.
En fait, ces lacunes, il faut les mettre dans le contexte quand même d'une augmentation de la couverture aussi bien diagnostique et de traitement dans la plupart des pays, y compris l'Afrique. Les lacunes, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui n'ont pas accès à des diagnostics et à des traitements, et ainsi qu'à des moustiquaires imprégnés, et ça surtout en Afrique.
C'est en Afrique subsaharienne que l'on recense le taux de mortalité dû au paludisme le plus élevé au monde.
Effectivement, l'estimation de l'année dernière est aux alentours de 198 millions, plus exactement, avec une mortalité estimée à 584 000 décès. Et en effet, comme vous l'indiquez, 80% des cas se produisent en Afrique.
Alors l'OMS recommande que tous les cas suspects de paludisme fassent l'objet de tests de diagnostic. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on dispose de tests rapides.
Tout à fait. C'était une des mesures de ces dernières années. Comme vous le savez, avant, on considérait que toute fièvre chez un enfant était un cas de paludisme, mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait, une grande partie des cas de fièvre n'était pas due au paludisme, mais à d'autres maladies. Donc, pour une meilleure prise en charge, parce que si ce n'est pas du paludisme, vous allez donner un médicament qui ne sert à rien, parce que l'enfant souffre d'une autre maladie, et d'autre part, vous risquez de donner des médicaments qui ne servent à rien, et donc d'augmenter la résistance. C'est un peu le même mécanisme que les antibiotiques. Donc on est parti sur une nouvelle politique qui était que chaque cas fébrile devait être diagnostiqué soit par les tests rapides, mais bien entendu aussi par la microscopie, qui reste quand même le diagnostic de référence pour le paludisme.
L'OMS recommande des traitements préventifs pour les groupes les plus vulnérables, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les bébés. Mais en même temps, en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne, il y a une question de coût. Est-ce que ces pays peuvent se permettre ces traitements préventifs ?
C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments qu'on utilise pour cette prévention, c'est-à-dire comme vous l'avez indiqué, chez les femmes enceintes, chez les enfants, les nourrissons, etc., sont des médicaments qui sont quand même bon marché. Ce n'est pas les mêmes médicaments que l'on utilise pour le traitement. C'est des médicaments qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Et donc, cela dépend en fait de la politique. Et effectivement, lorsqu'un pays a une enveloppe donnée pour le traitement du paludisme, le pays doit faire des choix. Néanmoins, ces méthodes ont quand même montré un coût efficacité qui était extrêmement intéressant et qui montrait que ça valait la peine de les mettre en place dans ces pays.
Un certain nombre de pays d'Afrique australe participent à l'initiative Élimination 8. Qu'est-ce que c'est ?
C'est dans 8 pays d'Afrique australe. Les pays ont décidé qu'ils étaient en mesure d'éliminer le paludisme de cette région du monde. Cela fait partie, je dirais, plus globalement d'une volonté d'ailleurs qui est développée dans la nouvelle stratégie de l'OMS 2015-2030 d'accélérer l'élimination dans les régions où cela est possible. Et l'Afrique australe est une de ces régions. Il y en a d'autres comme l'Amérique centrale, comme la région du Mékong. Et ce sont des régions qui vont se mobiliser pour pouvoir éliminer le paludisme dans les prochaines décennies.
On a tendance, face au paludisme, à lever les bras, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en fait, c'est comme on dit en anglais, success story, une histoire à succès, puisque on a quand même pu éviter des millions de morts par paludisme depuis 2001.
Tout à fait. Ça, les chiffres sont assez significatifs. Le fait que les populations aient accès à des médicaments de bonne qualité, à des diagnostics imprégnés, le fait de mettre en place des mesures préventives comme celles que vous avez indiquées a effectivement diminué la mortalité due au paludisme, mais il faut bien comprendre que si on ne continue pas dans cette lancée, les courbes vont s'inverser. Donc il faut absolument continuer les mesures qui ont été prises jusqu'à présent.
Le docteur Pascal Rigwald, chargé de la pharmacorésistance et de l'endiguement au programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS. Il était joint à Genève. Vous suivez Carrefour Science et Santé, un programme diffusé par La Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. Un type populaire mais controversé d'insecticides nuit aux populations d'abeilles sauvages, montre une nouvelle étude. Ces abeilles sont des pollinisateurs essentiels des cultures et des écosystèmes sauvages. Le point avec Michel Joseph.
Les experts environnementaux sont fermes, que cela soit aux États-Unis ou en Europe. Certains produits chimiques, les néonicotinoïdes, nuisent aux abeilles sauvages et déciment leur population. Il s'agit d'une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Les néonicotinoïdes sont parmi les insecticides les plus utilisés à travers le monde. Ils présentent 3 caractéristiques, leur très haute toxicité pour les insectes, leurs propriétés systémiques qui les rendent présents dans tous les compartiments de la plante traitée et leur très longue persistance dans l'environnement. Les néonicotinoïdes intègrent le pollen et le nectar des plantes et c'est ainsi que les abeilles entrent en contact avec ces molécules. Pour les apiculteurs, elles expliquent le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles.
Je soupçonne que nous avons sous-estimé l'importance des pesticides dans le déclin des abeilles sauvages, explique Mer Rundloff de l'Université de Lund en Suède.
Dans une nouvelle étude publiée par la revue Nature, elle détaille ses travaux sur des abeilles observées dans des champs de colza. La moitié de ces champs avaient été traités avec des néonicotinoïdes, l'autre pas.
Le résultat le plus dramatique que nous avons découvert, c'est que les colonies d'abeilles ne se développaient pratiquement pas sur les sites traités comparés aux sites libres de ces pesticides, explique May Rundloff.
En gros, on détectait 50% de moins d'abeilles sauvages par mètre carré dans les champs traités, comparé aux autres champs.
C'était assez dramatique dans cette étude. C'était très clair.
Une bonne nouvelle, l'étude semble indiquer que les néonicotinoïdes n'affectent pas les ruches d'abeilles domestiques, ce qui pourrait néanmoins poser un problème, ajoute M. Van Engelsdorp, car leur bien-être relatif pourrait cacher des séquelles, les recherches étant loin d'être exhaustives. Mais si les néonicotinoïdes posent un danger pour les abeilles sauvages, les interdire n'est pas forcément la solution.
Dans nombre de cas, ces insecticides sont en fait l'alternative la moins dangereuse. En les interdisant, vous forcez les fermiers à utiliser des produits tout aussi dangereux ou pires.
Toujours selon l'entomologiste, mieux vaut réfléchir à l'emploi de pesticides et ne les utiliser que lorsqu'ils sont indispensables.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. On enchaîne avec quelques autres nouvelles de l'actualité scientifique. Présentation Lionel Gaïma.
L'agence spatiale américaine, la NASA, fête cette semaine le 25e anniversaire du lancement en orbite du télescope spatial Hubble. Envoyé dans l'espace le 24 avril 1990, Hubble devait fonctionner pendant 15 ans. Mais 25 ans plus tard, il fouille toujours les confins de l'univers et livre chaque année entre 180 et 200 clichés d'astres observés. Lancement vendredi de l'Apple Watch, la montre connectée du fabricant à la pomme était disponible en précommande depuis son site Internet. L'Apple Watch est censé faciliter la vie des sportifs, mais la montre dispose d'une batterie de faible capacité et les applications se chargent lentement, selon les commentaires de certains premiers testeurs. Il faisait tranquillement la sieste depuis une cinquantaine d'années avant de détonner magistralement ce jeudi. Il s'agit du volcan Calbuco dans le sud du Chili qui est entré en éruption mercredi pour la première fois depuis 1972, projetant un épais panache de cendres haut d'une vingtaine de kilomètres. Le volcan Calbuco est niché dans la région touristique des lacs dans une réserve nationale. Et puis, le code génétique du mammouth laineux se précise grâce à des travaux réalisés notamment par des chercheurs canadiens et qui pourraient un jour permettre de ressusciter cet animal. Des chercheurs ont complètement décodé les codes génétiques ou génomes de deux mammouths. Un génome provient d'un mammouth qui a vécu en Sibérie il y a 45 000 ans. L'autre, c'est celui d'un animal qui a existé il y a 4300 ans sur l'île russe de Wrangel, dans le cercle arctique. L'ADN a été extrait d'une dent et d'un échantillon de tissu mou. Ces travaux ont été publiés dans la revue Current Biology.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, au micro Camille Grosdidier. À l'occasion de la Journée de la Terre, le président Barack Obama s'est rendu cette semaine dans le parc national des Everglades dans le sud de la Floride. Georges Léonard Sagnot raconte.
Le président Barack Obama en a profité pour évoquer la nécessité d'agir face au changement climatique, la plus grande menace, selon lui, à peser sur la planète.
This is not a problem for another generation.
Ce n'est plus le problème de la prochaine génération, c'est un problème aujourd'hui. Cela a des implications sérieuses pour notre mode de vie dans l'immédiat, a dit M. Obama. Le chef de l'exécutif s'exprimait à moins de 8 mois de la conférence de Paris visant à conclure un accord pour limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale. Le parc des Everglades, qui regorge d'oiseaux et de crocodiles, filtre également d'importantes quantités d'eau et sert de pépinière de poissons. Tout cet écosystème est menacé par la montée du niveau des mers, a averti M. Obama. Le débat sur le réchauffement climatique continue de faire rage aux États-Unis, certains parlementaires républicains niant toujours le phénomène ou le minimisant. Mais 2014 aura été l'année la plus chaude depuis le début de l'enregistrement des températures. 14 des 15 années les plus chaudes ont été signalées depuis l'an 2000. Monsieur Obama espère faire en sorte que les États-Unis réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% d'ici à 2025.
Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. À l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé les retards dans la vaccination des enfants. Car selon les estimations, un enfant sur cinq ne reçoit pas les vaccins de base. Et pourtant, il permettrait d'éviter 1,5 million de décès infantiles chaque année. On écoute le docteur Jean-Marie Okwobele, directeur du département vaccins, vaccination et produits biologiques à l'OMS.
L'OMS lance un cri d'alarme au moment de la Semaine mondiale de la vaccination parce que nous continuons à voir des données qui indiquent qu'un enfant sur cinq ne reçoit toujours pas la vaccination comme il se doit. Un enfant sur cinq, ça fait beaucoup parce que la vaccination a de l'impact lorsque la quasi-majorité des enfants sont protégés. Et donc, comme les quatre dernières années, ce chiffre n'a pas changé, nous voulons nous assurer que tous nous appuyons les pays pour voir des améliorations sur le plan de la couverture vaccinale.
Alors, on a déjà vu avec la polio que si certaines populations ne sont pas vaccinées, la maladie peut repartir de plus belle. Mais il y a aussi des inquiétudes du côté de la rougeole.
Tout à fait, il y a des inquiétudes non seulement au sujet de la poliomyélite, mais des maladies plus infectieuses encore, plus contagieuses encore, telles que la rougeole, se disséminent très rapidement dans nos communautés où la couverture vaccinale, le nombre d'enfants vaccinés est faible. Et avec une quarantaine d'années d'expérience dans la mise en œuvre du programme de vaccination, avec l'attention que nous voyons de plus en plus de la part de la communauté internationale et des pays eux-mêmes, nous pensons que nous pouvons faire mieux. Et donc, l'OMS voudrait encourager que nous puissions porter particulièrement attention au niveau des provinces et des districts qui sont en retard en termes de couverture vaccinale.
Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières concernant l'Afrique subsaharienne?
En Afrique subsaharienne, nous estimons qu'environ 75% d'enfants reçoivent 3 doses de vaccins contre la diphtérie, tétanos et coqueluche. C'est déjà un progrès par rapport à plusieurs années auparavant, où on comptait plutôt la moitié, 50%, voire même moins. Mais 75% signifie que 25% ne sont pas couverts. Et ça, c'est un enfant sur quatre, ça fait beaucoup. C'est pourquoi on continue de voir des épidémies dues à des maladies qui sont facilement évitables par la vaccination. Et donc, nous voulons lancer ici un appel à tous ceux qui peuvent aider, le personnel de santé, les communautés elles-mêmes, les cadres administratifs dans les provinces et les districts, pour qu'ils facilitent les opérations de vaccination au quotidien. Voilà un peu ce qui nous préoccupe, qu'on arrive à atteindre chaque communauté avec les vaccinations. Nous voulons encore une fois nous assurer que tous les pays ont des plans d'action, tous les pays ont un budget, une ligne budgétaire dédiée à la vaccination.
On écoutait le docteur Jean-Marie Okwobele, directeur du département vaccins, vaccination et produits biologiques à l'Organisation mondiale de la santé. Il était joint à Genève. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Brodidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.